Bon réveil à tous. Il est 6h.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Et voici toutes les infos que l'on va développer dans cette première édition. 60 millions d'électeurs allemands appelés aux urnes aujourd'hui. Qui remplacera Angela Merkel ? Un scrutin très indécis, une date gravée dans le marbre pour les Républicains. Le 4 décembre, jour de vote des adhérents qui départagera les différents candidats. Le sport à suivre bien sûr, nous reviendrons notamment sur la victoire du PSG qui a battu Montpellier 2-0 hier soir. Vos rendez-vous de la prochaine demi-heure, 6h12, les pronostics de Thierry Léger pour le quintet du jour à Vincennes. Puis la rencontre du dimanche, Frédéric Becbédé au Bataclan avec Naïma Benchemann. 6h23, on va partir en balade bien sûr. Avec Vanessa Zah et Marion Sauveur, d'abord dans le sud de la Bourgogne, puis en Indre-et-Loire pour déguster un fromage de chèvre local. Mais d'abord, la tendance météo. Bonjour, chère Valérie Darmon.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Et en ce premier week-end d'automne, forte pluie orageuse dans le sud, vigilance sur 4 départements, Hérault, Gard, Ardèche, Drôme toujours, et nuages partout ailleurs.
Météo complète bien sûr à la fin de ce journal.
Europe 1.
L'Allemagne aux urnes ce dimanche pour un scrutin très ouvert. Les derniers sondages donnent les deux grands partis SPD et CDU au coude à coude. Il faut bien dire, Hélène Kohl, que les enjeux sont énormes. Il s'agit de remplacer Angela Merkel, mais ce n'est pas un scrutin à la française et le processus va être très long, hein.
Oui, les Allemands ne votent pas directement pour élire le chancelier ou la chancelière. Ils renouvellent le Bundestag, c'est-à-dire la chambre basse de leur parlement. Le nombre de députés est variable, car le mode de scrutin est un mélange de proportionnel et de vote nominal à un tour. Résultat, le dépouillement va durer sans doute des heures cette nuit. Et il est très probable que l'on n'ait aucun gagnant à annoncer ce soir. À 18h, on aura des estimations sur la base de sondages à la sortie des bureaux de vote. Il n'y a jamais eu autant de suspects, car à cause de l'épidémie, beaucoup d'électeurs ont choisi d'exprimer leur suffrage par correspondance. Et ces gens, 40% de l'électorat tout de même, ne sont pas pris en compte dans les sondages. Ensuite, en fonction de la répartition finale des sièges, les partis vont commencer à discuter pour trouver une coalition. Ça sera dans les prochains jours au plus tôt. Et leurs négociations ensuite vont prendre des semaines, avec là encore des surprises possibles. En Allemagne, celui ou celle qui prend le pouvoir n'est pas forcément la personne qui a gagné les élections, c'est celle qui a réussi le plus vite à bâtir une majorité stable.
Hélène Kohl, correspondante Europe 1 à Berlin. 16 ans de pouvoir pour Angela Merkel. On verra à 6h30 comment se porte l'Allemagne économiquement. Autre scrutin en France, cette fois, ce sera le 4 décembre. Les militants, les Républicains ont donc choisi l'option du Congrès réservé uniquement aux adhérents. Alexandre Chauveau, c'est une décision plutôt favorable à Xavier Bertrand.
Oui, parce que le candidat nordiste avait toujours dit son opposition à une primaire ouverte, synonyme selon lui de division, et qu'à l'inverse, les autres candidats, Valérie Pécresse notamment, plaidaient pour ouvrir le vote à l'ensemble des sympathisants de droite, comme en 2016. Mais sauf imprévu, tous seront sur la ligne de départ. Que le meilleur gagne, a même tweeté Valérie Pécresse hier soir à l'annonce des résultats. Un soulagement pour Christian Jacob, le président des Républicains, qui ne jure que par l'unité.
Et oui, c'est une bonne nouvelle puisque ça permet que le 4 décembre, le débat soit clos et surtout rassemblé derrière un candidat d'union. Et l'union, vous savez, ça ne se décrète pas. L'union, ça se construit.
Le 4 décembre, les Républicains connaîtront donc leur candidat. D'ici là, la campagne va pouvoir vraiment commencer. Une campagne sans doute légèrement différente de celle qui aurait eu lieu si le vote était ouvert aux sympathisants. Les militants étant en général plus ancrés à droite. Les candidats devront réunir 250 parrainages d'élus LR pour se présenter et pourraient s'affronter au cours de débats télévisés. La question sera tranchée prochainement au sein du parti.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Les Républicains, ce sera le thème de l'édito d'Hervé Gattegno à 7h20. Et puis notez qu'Éric Zemmour sera l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos ce matin dès 10h. En bref, manifestation anti-pass hier partout en France. 63 700 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, dont 7 200 à Paris. Dans les hôpitaux, la décrue se poursuit. 7 980 patients atteints du Covid contre près de 9 000 il y a une semaine. Cette information Europe 1 à présent. Le couple Macron porte plainte contre un paparazzi pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Jacques Serret, cela fait suite à une exposition de photographies à deux pas de l'Élysée il y a à peine quelques jours.
Oui, ces photos ne sont pas récentes, elles datent de l'été 2020. Tout le monde ou presque les a vues dans la presse People. Emmanuel Macron en jet ski, en maillot de bain, torse nu. Jusqu'à présent, Emmanuel et Brigitte Macron ne s'en étaient pas émus. Mais voilà, ces clichés ont été exposés durant plusieurs jours en ce mois de septembre sur la vitrine d'une galerie. Galerie située juste en face du palais de l'Élysée. Le thème de cette exposition temporaire, les paparazzades de stars et de présidents. Ainsi, sur le trottoir présidentiel étaient visibles les clichés de Nicolas Sarkozy en train de se baigner, François Hollande à la plage en maillot de bain, tout comme Jacques Chirac torse nu sur le sable. Et évidemment, ces photos estivales d'Emmanuel et Brigitte Macron, une exposition qui semble n'avoir pas plu, mais alors pas du tout, au couple Macron. D'autant plus que l'auteur de ces clichés qui les concernent n'est autre que Thibaut Dalifard, un paparazzi qui avait déjà fait l'objet d'une plainte d'Emmanuel Macron en 2017. Selon nos informations, suite à cette exposition, le président et la première dame ont porté plainte pour atteinte à l'intimité de la vie privée. L'organisateur de l'expo a été entendu durant près de 2h30 en début de semaine. Le paparazzi sera lui auditionné mardi.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. On passe au sport. 8e journée de la Ligue 1 avec 4 matchs hier soir. Nice a battu Saint-Etienne 3-0. Lille s'est imposé à Strasbourg 2-1. Le nul 1 partout entre Lyon et Lorient. Enfin, le PSG s'est imposé 2-0 au Parc des Princes face à Montpellier. Les Parisiens qui caracolent en tête du championnat, Cédric Chasseur.
Oui, c'est une affaire rondement menée par les Parisiens qui marchent depuis plus d'un mois sur cette Ligue 1. Hier, Montpellier n'a rien pu faire. 2 buts de Gueye et Draxler ont suffi au bonheur des joueurs de la capitale qui repartent sans avoir vraiment convaincu, mais sans blessés supplémentaires à l'infirmerie. L'entraîneur Mauricio Pochettino aurait sans doute signé dès demain avant la rencontre pour avoir un tel scénario.
Je ne sais pas si c'est la soirée parfaite, mais c'est une bonne soirée avec ces 3 points gagnés. C'est une excellente façon de préparer la réception de Manchester City, un adversaire très fort dans une compétition, la Ligue des Champions, très importante pour le club.
Paris peut donc sereinement aborder la réception de Manchester City en Ligue des Champions mardi, un adversaire d'un tout autre calibre qu'il faudra battre, car le PSG, s'il est parfait en championnat, ne l'est pas sur la scène européenne et doit déjà rattraper les points perdus lors du nul concédé à Bruges lors de la première journée.
Cédric Chasseur, en boxe, le champion du monde WBA, WBO et IBF des poids lourds, Anthony Joshua, nettement battu au point et à l'unanimité des juges chez lui à Londres par l'Ukrainien Oleksandr Usyk. Et puis le cyclisme, il avait décroché l'an dernier le titre mondial. Julian Alaphilippe le remet en jeu, ce titre en Flandre. Près de 270 km de course, départ d'Anvers à 10h25. L'équipe de France aura face à elle, notamment les Belges qui courent à domicile. Un challenge nécessaire pour Julian Alaphilippe.
C'est important de remettre les compteurs à zéro. Je suis très heureux d'avoir été chercher le maillot, de l'avoir porté toute l'année, de l'avoir fait briller du mieux que je pouvais. Mais on est ici à Louvain pour un nouveau championnat du monde avec une nouvelle course à faire sur un parcours complètement différent de celui qu'on a eu l'année dernière, avec une équipe différente aussi. Donc voilà, il faut remettre les compteurs à zéro et puis donner le maximum pour aller chercher le meilleur résultat possible. Et si on peut avoir le maillot, ça serait chouette.
On croise les doigts, Julian Alaphilippe avec Axel May. Est-ce que vous reconnaissez cette voix ?
Welcome to Global Citizen Live.
C'est celle de Sir Elton John. Il était hier soir à Paris sur la scène du Champ de Mars. Un concert pour sensibiliser aux menaces climatiques qui touchent la planète. Et dans une vidéo diffusée lors de ce concert, Emmanuel Macron a annoncé que la France allait donner 120 millions de doses de vaccins aux pays pauvres. C'est 2 fois plus que prévu. I'd buy a big house where allez, quelques notes, juste pour le plaisir. Your Song, Elton John, seul au piano hier soir à Paris devant 20 000 personnes.